La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h40 sur Radio Classique, c'est l'heure d'Esprit Libre avec Franz-Olivier Gisbert puisque nous sommes jeudi. Bonjour Franz.
Bonjour David.
Alors comme ça, oui. Au lendemain de la fête du travail, vous estimez que les Français ne travaillent pas assez?
Ben oui, c'est ça. Oui. Ben, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter un jour de faire ces grandes fêtes du 1er mai qui sont les fêtes du travail. En France, en tout cas, parce qu'en France, on travaille moins que les autres.
C'est les fêtes, des travailleurs.
Non, c'est la fête du travail. C'est
là,
la fête
y a deux exceptions.
Oui, mais c'est dans tous les pays du monde.
Sous Vichy, c'est fête du travail, et internationalement, c'est fête des travailleurs.
Mais enfin, c'est la fête du travail. Les travailleurs, évidemment, considèrent que c'est leur fête, et c'est tout à fait normal, parce que c'est une fête pour eux. Mais le problème commun, nous, vous voyez, c'est le problème des statistiques. Les statistiques, disait Mark Twain, le grand écrivain américain, qui est un humoriste génial, il disait il y a trois catégories de mensonges. Il y a les mensonges, tout simple. Il y a les sacrés mensonges. Et puis, il y a les statistiques. Et c'est vrai que, quand vous regardez les statistiques, d'abord, il y a tous ces économistes, vous savez, marxistes, LFistes, etc., enfin, qui sont très nombreux et qui occupent tout le système médiatique, pratiquement, et qui vous expliquent sans arrêt que, d'abord, on travaille beaucoup en France, on travaille plus, etc. Vous avez les chiffres de l'OCDE qui montrent d'ailleurs que nous travaillons plus que l'Allemagne. Hein. Mais l'Allemagne a le problème du chômage partiel qui brouille un peu les statistiques. Mais Rexecode, qui est une boîte alors plutôt réputée patronale, a fait une nouvelle étude et qui montre quand même que, à l'arrivée, la France est le pays qui travaille le moins en Europe, juste devant la Finlande. Et c'est très simple parce que il faut calculer en heures annuelles travaillées. Et dans ces statistiques, l'Institut Rexecode a eu la bonne idée de rajouter tous les avantages qu'il y a en France. Puisque quand on regarde bien, si vous voulez, en France, vous avez plus de congés payés, bien sûr. Hein, ça, c'est clair. En France, à l'arrivée, si vous voulez, on travaille 40... comment dire, on travaille plus en Allemagne qu'en France. Les chiffres, c'est 45 semaines contre 43 en Allemagne. Ça fait une petite différence. Quand même.
Semaine travaillée.
Mais oui, ça fait une
petite différence. Je précise, parce que parfois...
Oui, mais ça fait 122 heures de différence en moins qu'en Allemagne, 162 heures de moins qu'en Italie. Enfin, voilà, si vous voulez. Et c'est ça le problème que nous avons en France aujourd'hui. C'est qu'il faut remettre la France au travail. Ça, c'est l'espèce de catastrophe énorme des 35 heures au début des années 2000. Enfin, cette célèbre loi de Martine Aubry, c'était, vous vous souvenez, les 35 heures obligatoires.
Bien sûr,
pour
je
tout
m'en
monde,
souviens. Ça a été l'objet d'un débat national très important. Voilà, et même avant les 39 heures, et puis ensuite les semaines de congés payés en plus. Vous avez eu l'occasion, vous, d'en parler aux différents présidents de la République que vous avez rencontrés, vous leur avez tenu ce discours, on ne travaille pas assez, est-ce qu'ils étaient, sensibles à ça?
Oui, tous.
Même Mitterrand?
Tous. Ah non, pas Mitterrand, c'était, comment c'était avant, c'est-à-dire le sujet n'était pas vraiment sur la table, c'est-à-dire la gauche disait à l'époque, vous vous souvenez, à la fin des années 1970, et c'était dans le projet socialiste qui a été appliqué, vous avez vu les résultats catastrophiques en 1981, c'était il faut travailler moins pour créer des emplois. C'est facile d'ailleurs, il y a l'autre là, Sandrine Rousseau, elle a dit aussi d'ailleurs, oui, c'est mieux de ne pas travailler, c'est mieux pour la planète, vous voyez, on peut trouver des tas de choses. Pour un pays, c'est sûr que ce n'est pas bon de travailler.
Parce que la gauche...
De travailler moins, c'est évident que ce n'est pas bon. France. Et regardez les présidents, justement, non mais je vais répondre à votre question, oui. Parce que à la fois Sarkozy voulait supprimer les 35 heures, finalement il n'y a pas fait. Hein. Et Sarkozy il avait d'ailleurs ce slogan formidable qu'il faudrait réintroduire dans la vie politique française qui était travailler plus pour gagner plus.
Mais il a travaillé sur les heures supplémentaires.
Oui, mais enfin il travaillait sur les heures supplémentaires quand il est défiscalisé, ce qui a d'une certaine manière renforcé le système des 35 heures. François Hollande qui est arrivé après, lui qui était plus vicieux, il les a refiscalisés. Ce qui a un peu, comment dire, désorganisé le système. Macron, par démagogie, les a redéfiscalisés dès de son élection en 2017. Et finalement, maintenant, elles sont installées, c'est très difficile de revenir en arrière. Et on est dans cette situation, si vous voulez, avec nos congés payés, avec oui, ce qu'il faut bien dire aussi, comment dire, tous ces congés que nous avons en plus, que la plupart de nos amis, notamment les congés maladie, tous ces congés en plus font qu'en France, eh ben, on travaille, on est le pays européen qui travaille le moins. Et c'est pas très bon. Oui, très bien, parce que un pays doit produire. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? On voit très bien, c'est la situation du gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah oui, on emprunte, on dépense, soi-disant pour créer de la croissance. Bien entendu, à l'arrivée, il n'y a pas de croissance.
François-Olivier Gisbert, je m'adresse à l'ancien patron que vous avez été. Oui. Vous avez dirigé des rédactions.
J'étais hystérique contre les 35 heures, c'était connu. Hein. Ça faisait rigoler tout le monde.
Est-ce qu'il y a le sentiment que les journalistes sont une profession paresseuse?
Pas du tout. Mais c'est pas le problème.
Ah, mais je dis pas que c'est le problème. Non, c'est une question que je vous pose. Problème.
Les Français ne sont pas paresseux. C'est pas ça l'histoire. Ouais. Mais non, c'est que quand on fixe des règles, eh ben, évidemment, les gens veulent en profiter. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, les Français qui sont loin d'être des imbéciles, contrairement à certains de leurs gouvernants, les Français, quand vous regardiez les sondages il y a des années, vous vous souvenez, vous en rappelez, il y avait toujours l'étude qui montrait que les Français trouvaient que, ah, les 35 heures, bah, c'était, oui, c'était très bien pour eux. Ils étaient pour. Mais, ah non, pour l'économie, ah non, c'était pas bien pour l'économie. Ça, ils avaient compris ça. Vous voyez? Donc, le problème, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Je pense que c'est trop tard maintenant. Mais il faut trouver des systèmes pour faire que les Français travaillent plus. Bah, c'est pour la France.
Pour créer la préférence française pour le travail et non pour le chômage ou le loisir, il y a plusieurs variables. Vous avez parlé de la durée hebdomadaire du travail. Et on pourrait parler aussi de l'allongement ou pas du départ en retraite, enfin du recul ou pas du départ en retraite. Et puis, il y a la réforme de l'assurance chômage promise par Gabriel Attal avec de nouvelles modalités d'indemnisation des chômeurs pour justement encourager, inciter les gens à se remettre au travail. Qu'attendez-vous, vous, de cette réforme?
Bon, d'abord, il y a comment dire, un mauvais exemple qui a été donné à tous les Français avec la décision la semaine dernière, hein, la SNCF, de faire en sorte que la réforme pour laquelle le pouvoir s'est battu, que cette réforme ne soit pas appliquée pour les cheminots. C'est quand même un truc de fou. Et tout ça vient d'ailleurs de l'Élysée. Hein. C'est pas le grand patron de la SNCF, il est pour rien. Il a fait qu'appliquer les instructions. Mais enfin, c'est quand même dingue. Et ça va donner, évidemment, ça va donner des envies dans d'autres administrations, dans d'autres entreprises publiques. Et évidemment, pas dans le privé, parce que le privé, lui, par définition, il travaille plus. Ce qui est forcément très difficile. Mais alors, là, le grand sujet que vous évoquez, c'est d'ailleurs, c'est Bruno Le Maire qui l'a évoqué dans son livre. C'est qu'il faut passer, effectivement, de l'État-providence à l'État protecteur. Moi, je suis évidemment pour l'État protecteur.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? J'ai l'impression que c'est une formule de Bruno Le Maire.
Non, c'est pas une formule. Aujourd'hui, nous sommes à 56% de dépenses publiques. Vous écoutez nos économistes marxistes, téléphysés, etc., qui sont quand même atterrants. Hein. Ils vont vous expliquer que...
Et atterrés.
Nous
sommes, on les appelle les économistes atterrés.
Oui, c'est pour ça que je les trouve atterrants. Et ils expliquent toujours que nous sommes en plein libéralisme. Le gros problème de la France, c'est le libéralisme. Avec 56% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, nous sommes dans... Bah oui, si les mots ont un sens, c'est plutôt proche du communisme. Hein, une sorte de communisme mou, sans la police, bien entendu, sans la Stasi, on est bien d'accord là-dessus.
Donc là, c'est providentiel. À partir de quel moment ça devient protecteur? À 49%, 45%?
Bah oui,
attendez. C'est un changement de logique,
mais non,
de paradigme.
À un moment donné, il faut arrêter. Ça n'arrête pas de monter, ces dépenses publiques. C'est notre grand problème en France. C'est pour ça que la France s'endette. C'est pour payer, d'ailleurs, au lieu parce que l'endettement, si c'est pour investir sur des grands projets industriels, c'est ce que fait Biden, d'ailleurs, aux États-Unis, ça peut se comprendre. Si c'est juste pour payer les fins de mois, boucher les trous, bah c'est pas bon. C'est ce qu'on fait en France, quand même, depuis des années.
En un mot, définissez-moi la différence entre État-providence et État-protecteur. Il y a un changement de concept, presque.
L'État-providence, c'est l'État qui s'occupe de tout le temps.
Ouais.
Et là, par exemple, dans les mesures qui sont en question... Vous posiez la question sur l'assurance chômage. On voit très bien, c'est une adaptation. Aujourd'hui, on est plutôt en plein emploi. Ce ne sont plus les salariés qui ne trouvent pas d'emploi en France aujourd'hui. Ce sont les employeurs qui ont du mal à trouver des salariés. C'est la réalité, on le sait très bien, on l'entend, on le voit partout. Bon, il faut en tirer les conséquences. On peut adapter la loi. Je ne dis pas qu'il faut définitivement, s'il y a un retour du chômage de masse, évidemment, il faudra rechanger la loi. Mais là, c'est tout à fait évidemment ce qu'il faut faire.
Raphaël Glucksmann, agressé hier, François-Olivier Gisbert à Saint-Étienne. Guillaume Tabar a rappelé ce matin le contexte et les réactions politiques de cette agression en marge d'un défilé du 1er mai. Jean-Luc Mélenchon a réagi immédiatement en expliquant que c'était pas son parti, mais que ça allait être utilisé par Raphaël Glucksmann pour se victimiser. Voilà des dénégations de crocodile.
Bah oui, enfin, c'est évident que c'est pas Mélenchon qui a organisé ça depuis Paris. Ce sont les abrutis de LFI et puis de la Révolution Permanente là, qui étaient avec. C'est un groupuscule trotskiste, enfin on voit très bien. Le gros problème de LFI, de toute façon maintenant, c'est qu'ils sont complètement infestés par l'ultra-gauche, les hyper-gauchistes, enfin tout ça. Et puis tout ça sur fond d'antisémitisme, hein, parce que l'antisémitisme, moi je le répéterai tous les jours, ici, il est d'extrême-gauche maintenant. C'est très clair. C'est, nous avons affaire en France et en Grande-Bretagne, aux États-Unis, parce que c'est la même chose, à un antisémitisme d'extrême-gauche. Et là, bon, c'est très intéressant ce qui se passe. C'est qu'il y a un phénomène, Glucksmann, que cet épisode de Saint-Étienne va évidemment aider. Parce que c'était pour lui, c'est du bon pain. Effectivement, il se victimise. Il a raison. Bah, il a raison. D'ailleurs, quand on voit les scènes, on voit là...
C'est odieux. Bon, on voit la méchanceté et le côté venimeux de ces militants. Mais à la limite, il n'a pas besoin de se victimiser.
Mais enfin, c'est aussi les politiques.
Pardon?
La politique, c'est comme ça. C'est-à-dire, il arrive la même chose au président de la République, au Premier ministre, à tous les ministres possibles, imaginables. Faut pas non plus en faire la grande victime. Mais enfin, c'est sûr que c'est pas bien.
C'est des gens de gauche, ils étaient dans un défilé du 1er mai, il n'y avait pas de raison de se cracher dessus.
On est d'accord, absolument. Et de toute façon, il y a aujourd'hui en France un phénomène Glucksmann. Et ce phénomène Glucksmann est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une partie de la gauche socialiste, enfin, disons la droite de la gauche, qui est en train de se réveiller et qui veut sortir du système de la NUPES pour recréer une gauche.
Franz-Olivier Gisbert, je voudrais m'adresser à l'Américain que vous êtes un peu dans l'âme et dans les veines. Vous avez travaillé aux États-Unis, vous connaissez bien évidemment que vous inspirent les tensions sur les campus américains. Est-ce qu'ils ont un lien avec l'agitation des années 60? On y pense évidemment, parce que dès qu'il y a de l'agitation des policiers sur un campus, des banderoles, on pense à l'Amérique de la lutte pour les droits civiques. Et deuxième question d'ailleurs, quel impact ça peut avoir sur la campagne américaine pour la présidentielle?
Ça va aider Trump, c'est évident. Ouais. Ça gêne Biden. Mais enfin, si on regarde la réalité des choses, on n'est pas dans les années 60.
C'est pas la lutte pour les droits civiques.
Non, parce que ce sont des étudiants très souvent d'origine étrangère. Dans des universités, d'ailleurs, où vous avez maintenant des fonds arabes, notamment le Qatar, qui ont beaucoup d'importance, on est dans une situation différente. Autrefois, c'était des organisations, d'ailleurs souvent des organisations juives.
Les
grands donateurs, etc. Et bon, tout ce qui s'est passé à Harvard, etc., fait que maintenant, ils ont été remplacés par des grands fonds type Qatar. Et ça, si vous voulez, ça change un peu la donne. Mais je dirais que c'est plus une importation du conflit, même si il y a une réalité aussi, mais c'est une importation du conflit. Et je pense que ça gêne beaucoup plus le Parti démocrate, on voit très bien, puisque Biden est historiquement toujours été pour Israël. Mais, évidemment, avec des critiques, il n'est pas un défenseur de Netanyahou, mais enfin, il est pour le droit à Israël d'exister, qui est quand même contesté aujourd'hui par, effectivement, des étudiants, mais pas seulement aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
Vous pensez qu'il y a ce qu'on appelle la convergence des luttes là-bas ? Où les gens de couleur se réunissent avec les gens qui s'estiment racisés, avec ceux qui s'estiment stigmatisés pour leur orientation sexuelle, etc. Et que tout le monde se rejoint pour manifester contre Israël et pour la Palestine. Vous pensez qu'il y a ça
ressemble un peu à ce qu'on voit en France quand même, c'est très minoritaire. Ouais. C'est très minoritaire, mais enfin, ils tiennent le truc. C'est-à-dire, on a vu ce qui s'est passé à l'université de Columbia, ils empêchent les étudiants juifs de rentrer.
À Los Angeles cette nuit, à UCLA.
Ça marche. UCLA, il y a des bagarres. Ouais. Enfin, bon, voilà, ça c'est clair. Mais enfin, faut pas confondre, on n'est pas en 1968, je crois, vraiment pas encore. Et il y a un côté vraiment dans ce conflit, c'est un conflit importé. Voilà.
On va pas parler de Maupassant, mais on va parler de Bellamy, qui a dévoilé sa liste aux européennes.
Belle transition.
Il a dévoilé sa liste aux européennes
hier.
Oh, formidable. Un général, Christophe Gomard, une agricultrice, Céline Imar, sur la liste LR aux européennes. Des vieux de la vieille, Brice Hortefeux et Nadine Morano, qui rappellent les années Sarkozy. Va falloir beaucoup d'énergie quand même pour dépasser les 8% des dernières élections européennes de 2019, où c'était déjà Bellamy qui conduisait la liste.
Oui, mais enfin, je voyais, un sondage là dans le Point de ce matin, Cluster, et on voit qu'il prend des couleurs, Bellamy. François-Xavier Bellamy, il fait une bonne campagne. Hein, il a beaucoup travaillé au Parlement européen. Il connaît très bien ses dossiers. Il est courageux. Non, je veux dire, pour l'instant, c'est vrai, c'est le 9 juin quand même, il y a le temps. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça qui est très intéressant, la période qu'on vit. C'est que, bon, les macronistes, paraît-il, paniquent pour les résultats. Mais c'est sûr qu'il y a une sorte de match entre Glucksmann et Hayek pour la deuxième place, et que Glucksmann est peut-être bien placé. C'est peut-être lui, finalement, qui sera le deuxième, c'est-à-dire qu'il va dépasser la liste macroniste derrière Bardella, qui est très loin devant tout le monde. Bon, c'est clair que ça montre, si vous voulez, ce que je disais, que Glucksmann incarne la volonté d'un certain nombre de Français de recréer une force de gauche socialiste, une vraie force de gauche. Et de l'autre côté, vous avez aussi les Français qui veulent une vraie force de droite. C'est-à-dire, c'est très intéressant parce qu'on est peut-être en train de vivre le début de l'anti-macronisme.
Le retour du clivage droite-gauche.
Non. La fin du macronisme. Avec ces élections après le 9 juin, il y aura peut-être à nouveau un début de clivage droite-gauche. On en sera loin, bien entendu. Mais depuis 2017, on voit très bien, la gauche comme la droite ont été siphonnées par les macronistes ou par le RN. Peut-être que la gauche renaissant, on va voir aussi la droite qui va commencer à renaître, parce que maintenant, je ne dis pas que c'est fini, Macron, il y en a encore pour 3 ans, mais les gens commencent à regarder ailleurs.
Franz-Olivier Gisbert, nous allons nous quitter avec un clin d'œil à Johannes Pfarr. Vous savez que c'est le père du chat du rabbin.
Je l'adore. Et
vous l'adorez ?
À tous mes petits-enfants, régulièrement. Ils sont toujours ravis et fous de joie.
On va se quitter donc avec le duo des chats de Rossini.